Venons-en au thème disciples du Christ et homosexuels. En lisant ces phrases, vous voyez de suite qu'il manque le mot personne, mais il manque autre chose. Il n'y a pas de verbe. Et implicitement, tout le monde va y mettre le verbe être. Mais c'est pas si évident que ça. Et je crois qu'il faut s'interroger, savoir si le verbe avoir n'aurait pas sa place. Avoir. Alors on va prendre la phrase à l'envers. Avoir une sexualité. Avoir un corps. Avoir peut aussi limiter dans un seul aspect de ma vie. Mais nous avons un corps. Nous avons une sexualité. Donc, faut se poser la question, avoir ou être ? Avoir ou être disciple ? Avoir un disciple, ça veut dire que j'ai peut-être aussi la capacité d'agir en gourou, en maître, aimer être entouré de ceux qui pensent comme moi, être entouré de gens qui me suivent. Cela peut être vrai dans mon travail, dans mon boulot, dans une activité, dans une association. Être aimé, être apprécié pour ce que je donne, ce qui peut rejoindre des paradis plus ou moins artificiels. Et je crois que nous pouvons, au début d'une journée, d'un long week-end, nous poser la question sur l'opportunité du verbe « avoir » ou « être ». Première question, premier point que je vous laisserai réfléchir et aborder. Après ça, quand on a sous les yeux le mot « disciple », on va vite s'inquiéter. Puis alors, on va s'inquiéter. Puis alors, le choix de l'évangile d'aujourd'hui va peut-être encore nous rendre plus inquiets. Disciple. Disciple ou apôtre? Qui Jésus a-t-il fait travailler tout à l'heure? Les apôtres ou les disciples? Les disciples. Et je crois qu'il faut, dès le début du week-end, bien poser une différence de vocabulaire entre apôtre et disciple. L'apôtre, alors je vais commencer par lui. Pourquoi ? Parce que ça va être la parenthèse la plus courte. L'apôtre a comme origine un mot grec qui signifie « envoyé ». L'apôtre est chargé de mission. Et dans la primitive Église, les apôtres sont chargés de l'évangélisation. Alors dans le Nouveau Testament, on en connaît de ces apôtres, de ces gens qui reçoivent par Jésus la mission d'évangéliser. Il y a bien sûr les plus connus, les 12 disciples que Jésus choisit pour fonder son évangile. Mais il y a d'autres apôtres dans l'Ancien Testament. On a ces ambassadeurs qui doivent être respectés comme le roi qui les envoie. Dans le Nouveau Testament, on a Paul. Paul qui va demander des lettres pour les synagogues de Damas, en vue de persécuter les fidèles de Jésus. C'est un délégué officiel, muni de lettres officielles. Alors l'Église va elle aussi hériter de cette coutume quand d'Antioche et de Jérusalem elle envoie Barnabé et Silas avec leurs lettres, ou lorsque l'Église fait de Barnabé et Paul ses délégués. À en juger par l'usage de l'époque, l'apôtre n'est pas d'abord un missionnaire ou un homme de l'esprit, ni même un témoin. C'est un émissaire, un délégué, un ambassadeur. L'apôtre, c'est donc celui qui va être envoyé et il va exercer une fonction apostolique. Faut-il trouver dans les 12 disciples la même notion d'apôtre ? Jésus va vouloir multiplier sa présence, amplifier et répandre son message par des autres, par des hommes qui seraient d'autres lui-même. Alors il va choisir et envoyer en mission pour parler en son nom, muni de son autorité, qui m'accueille, qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. On va trouver cela dans l'évangile de Matthieu. Et puis ils vont de suite être associés à une tâche. Alors on pourrait prendre l'évangile d'aujourd'hui, mais Marc construira autrement son évangile. J'y reviendrai tout à l'heure en regardant la place des disciples dans l'évangile de Marc. Toujours est-il que certains nombres de disciples vont recevoir la mission d'apôtre. Ils devront amplifier la parole de Dieu. Ils devront être les témoins du Christ, c'est-à-dire attester que le Christ ressuscité est ce même Jésus que celui avec lequel ils ont vécu. Quand vous lisez un évangile, il est toujours important de bien regarder à qui il est écrit et ce qui est mis en valeur. Alors c'est surtout Matthieu qui va amplifier le rôle des disciples et les appeler apôtres. C'est Matthieu qui va insister sur le témoignage qu'ils ont à donner. Ils sont les ambassadeurs pour le Christ. L'autorité apostolique s'exerce à partir de la doctrine, du ministère et de la juridiction. Voilà pour l'apôtre. L'apôtre, si je résume, c'est le disciple qui reçoit une mission particulière. Important. Important parce que nous pouvons avoir dans notre conscience un mélange des deux. Parce que nous avons une pratique de la parole de Dieu. Et donc, disciple égale apôtre, peut-être un peu trop facilement. Donc, en commençant, là, je voulais vous inviter un petit peu à prendre une distance. Tous les disciples ne sont peut-être pas appelés à être apôtres. Tous les disciples ne sont-ils pas appelés à être apôtres ? Pourra-t-on garder les trésors que nous aurons découverts que pour nous ? Ce sera peut-être une question sur laquelle vous pourrez rebondir personnellement ou en groupe. Alors, le disciple, c'est qui ? Le disciple, c'est quoi ? Non, c'est qui ? Le disciple, c'est celui qui va volontairement se mettre à l'école d'un maître et qui en partagent les vues. Celui qui, volontairement, c'est un acte libre. Je décide de suivre quelqu'un. C'est un engagement volontaire. Pour suivre qui? Un maître. Une personne. Pas des idées. Pas une idéologie. Une personne. Et dans laquelle je me retrouve par ses valeurs, par ce qu'il me propose de vivre. Là aussi, dans l'Ancien Testament, on a des disciples. Ce n'est pas une nouveauté du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on a Élisée qui s'attache à Élie. Ainsi, on trouve aussi, un groupe de fervents disciples autour d'Isaïe qui reçoivent en dépôt son témoignage et sa révélation. On va avoir les sages qui auront des disciples qu'ils appellent leurs fils, auxquels ils inculquent les enseignements traditionnels. Mais ni les prophètes, ni les sages n'oseraient par leur enseignement supplanter la parole de Dieu. C'est sur elle seule que l'alliance est fondée. Puisque la parole divine est la source de toute sagesse, l'idéal n'est donc pas de s'attacher à un être humain, mais d'être disciple de Dieu lui-même. Et on continue. On va trouver cette attitude du disciple dans certains psaumes. Et on va voir par exemple dans le psaume 119, Seigneur, enseigne-moi. Je me mets à ta suite. Puis, il y a le retour de l'exil. Alors, si je signale le retour de l'exil, c'est que là, il va y avoir un petit changement. C'est que la parole de Dieu ne va plus rester première. C'est la loi qui va devenir l'objet premier de l'enseignement. Et les maîtres chargés de donner cette loi, eh bien, on va les appeler les docteurs de la loi, à l'autorité de la parole de Dieu qu'ils commentent, s'ajoute peu à peu leur autorité personnelle. Et si je cite cette partie de la Bible, le retour de l'exil, c'est que vous voyez déjà poindre les critiques que Jésus va faire aux docteurs de la loi, puisque c'est leur enseignement qui va prendre le dessus sur la parole de Dieu. Les disciples sont déjà là, présents, dans l'Ancien Testament. Les disciples sont là, dans le Nouveau Testament. Tous, nous connaissons les premiers disciples, non pas de Jésus, mais les disciples de Jean-Baptiste. Alors, je n'aime pas trop mélanger les évangiles. Et je voudrais qu'on se fixe un peu sur Marc. Il y a les disciples de Jean-Baptiste. Et ils le suivent. Jean-Baptiste parcourt le désert et il est là. Et on va de suite voir apparaître les disciples de Jésus. Je vous lis Marc 1, 17. On est à la fin du baptême de Jésus. Comme il passait le long de la mer de Galilée, Jésus voit Simon et André. Il leur dit « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Venez à ma suite. Ce sera la première mission des disciples. Venez à ma suite. Ce qui compte pour devenir disciple de Jésus, ce ne sont pas nos qualités intellectuelles, ni même morales. C'est un appel dont Jésus a l'initiative, et derrière lui, le Père. Car c'est le Père qui donne à Jésus ses disciples. Regardons un peu plus loin, au chapitre 3, verset 13. Et il en établit 12 pour être avec lui. La mission première du disciple, c'est être avec. Être avec ce qu'on est, sans être un homme ou une femme supérieure. Et la notion de disciple n'est pas un rapport qui unit le disciple et le maître, ce n'est pas un rapport d'ordre intellectuel, car le verbe suivre exprime toujours l'attachement à la personne de Jésus. Sauf que suivre Jésus, c'est peut-être là où il peut y avoir certaines difficultés à être disciple. Suivre Jésus, c'est rompre avec le passé. D'une rupture totale, suivre Jésus, c'est calquer sa conduite sur la sienne, écouter ses leçons et conformer sa vie d'après celle du Sauveur. Être disciple, c'est donc suivre le Christ, mais avec une rupture sur le passé. Suivre, c'est écouter et mettre en pratique un art de vivre. Et le disciple n'est alors pas lié à une doctrine, mais il est bien lié à une personne. Il est invité à tout quitter pour suivre celui qui désormais est pour lui père et mère. Je reviendrai tout à l'heure sur cet engagement, cette rupture. Cette rupture qui va créer un lien nouveau. En acceptant d'avoir des disciples, il y a un devoir. Et Jésus va remplir ce devoir. Il est attentif à ses disciples. L'évangile, alors c'était quelle référence l'évangile d'aujourd'hui ? Marc, quel chapitre ? Parce qu'il y a de nombreuses multiplications de pain chez Marc. 8, 1, 10. Alors, en Marc 6, 30, en Marc 6, 30, regardez comment Jésus est attentif. Les disciples se réunissent auprès de Jésus, ils lui rapportent tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont vu. Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Le maître est attentif à ses disciples. Venez à l'écart, reposez-vous. Le maître va même offrir l'espace de l'intimité, puisqu'ils vont partir sur la montagne, lieu hautement symbolique. En 6,45, il va à nouveau prendre soin d'eux. On est au milieu du lac. Il y a la tempête. 100 combien ? Kilomètres à l'heure ce matin ? 170. Il est dans la tempête. Et il vient. Et il vient les rassurer. Il vient témoigner de sa confiance. Là aussi, le maître prend soin. Mais ses disciples, qui suivent-ils ? Et je vous invite vraiment à relire avec soin l'évangile de Marc. Qui suivent-ils ? Un guérisseur ? Parce qu'il en a fait des choses, Marc, dans les premiers... Il en raconte des choses dans les premières pages. Au chapitre 3, un homme paralysé qui est guéri par Jésus. Au chapitre 5, un possédé. Au chapitre 8, un aveugle. Qui décide-t-il de suivre ? Sont-ils les disciples d'un guérisseur ? Sont-ils les disciples d'un généreux donateur ? Il y a l'évangile que nous venons d'entendre en Marc 8, 31, où Jésus nourrit 4000 hommes, mais en 6, 30, il a fait mieux. Il en a nourri 5000. Pas mal ce mec ! Disciple d'un généreux donateur. Suivent-ils un homme tout-puissant ? Tout-puissant à tel point que la nature lui obéit. En Marc 8, 35. Qui suivent-ils ses disciples ? Alors il y aura le coup de génie de Pierre. Au chapitre 8, qui d'un seul coup, mais notez bien, chapitre 8, l'évangile de Marc doit faire 21 ou 22 chapitres en total. Il y a le coup de génie de Pierre qui, au chapitre 8, va oser dire « Tu es le Fils de Dieu ». Je souhaite m'attarder sur cette longueur. Comment se fait-il qu'écrit 70 ans à peu près après les événements, Marc insiste sur cette longueur. Parce que l'intimité et être disciple avec Jésus n'a sûrement pas été aussi évident que cela. Tout d'abord parce que Marc écrit, et je crois que ce n'est pas anodin, Marc écrit aux habitants de Rome. Et c'est peut-être l'évangile qui est le plus proche de notre culture. Marc écrit à des gens un peu comme nous, Gaulois. Et il leur a fallu du temps. Et ce n'est pas évident. Il écrit à des gens qui souffrent. Pour qui dire être chrétien, c'est quand même pas le top. On risque sa vie, on risque les critiques. Donc Marc va dire, pour être disciple du Christ, ben il faut faire nôtre la profession de foi de Pierre. Et qu'il va falloir du temps. Et qu'à certains moments dans notre vie, Jésus peut être ce généreux guérisseur. Jésus peut être ce donateur. Il peut être cet homme tout-puissant. Mais qui ? Qui suivons-nous ? Il faut du temps pour accepter d'être disciple. Alors l'évangile pourrait dire le contraire. Il les appelle aussitôt, il lâche tout. Vous avez en mémoire ces pages de la Bible. Sur le aussitôt, ils lâchèrent tout. Je ne pense pas que ça ait été aussi évident que cela. Pour une autre raison, c'est qu'ils ne lâchent pas tout. Qu'est-ce que Jésus est pour les disciples ? Jésus, c'est quelqu'un un peu d'illuminé, mais qui est dans le monde juif. C'est quelqu'un qui est très proche de leur culture. Et quand il décide de le suivre, il décide de suivre peut-être celui qui apparaît comme un docteur de la loi avec une vision un peu originale de la parole de Dieu. Mais ça n'invite pas à une grande rupture. La grande rupture, elle sera après la mort et la résurrection du Christ. Donc quand il décide de suivre, il n'y a pas une rupture. C'est dans une certaine continuité de la religion juive. Et pourtant, j'ai dit tout à l'heure que être disciple du Christ, ben, c'est renoncer et changer radicalement. Il faudra qu'on y revienne sur ce point. Mais je crois qu'il nous faut surtout retirer de notre tête ce côté radical. C'était progressif. Les premiers témoins du Christ sont des juifs, les disciples sont des juifs, ne comprennent pas tout, et puis même pire, Jésus va être un peu salaud avec eux. Quand une fois ou l'autre ils comprennent ce qui pourrait arriver, le maître va leur dire « Silence ! Fermez-la !» Oh, ils vont avoir dans Marc la belle illumination, hein, la transfiguration. Ah, les trois favoris, là. En descendant, vous la fermez. Ah, ils envoient des choses. Et quand d'un seul coup, l'un ou l'autre commence à avoir un petit éclat de génie, comme Pierre, s'il te plaît, tu te tais. Être disciple, ça va demander du temps. Et parfois le temps du silence. Le temps de la maturation. Et il me semble important d'insister sur cette notion de temps. Quand vous lisez la vie des saints, on gomme cette notion de temps. Alors saint Augustin va nous dire du jour au lendemain, arrêtons de charrier du jour au lendemain. Ah, du jour au lendemain, oui. Non, pas du jour au lendemain. Chaque jour de sa vie, il a sa mère qui est venue lui rabâcher un certain nombre de choses, en la personne de sainte Monique. Mais ça n'a pas été une radicalité d'un seul coup du jour au lendemain. C'est peut-être là où il peut être intéressant dans notre vie de disciple de commencer à repérer quelles sont ces petites touches de couleurs qui sont mises sous nos yeux. Mais comme les disciples de Marc, nous avons trop souvent la tête sur le guidon sans pouvoir regarder l'œuvre qui est en train de se réaliser. Relisez la vie de vos saints. Et si vous avez quelques biographies exactes, la notion du temps sera toujours donnée. C'est un point qui me semble vraiment, vraiment très, très important. Être disciple s'inscrit dans le temps, dans la durée. Alors peut-être que des fois nous aurions envie de dire « Seigneur, fais plus vite !» Oui, mais nous sommes libres. Peut-être que des fois nous aurions envie de dire « Seigneur, j'y comprends rien !» Rassurons-nous, nous ne sommes pas les seuls. Ça a été le cas des premiers disciples. Et là aussi, regardez, Pierre va oser cette affirmation. D'un seul coup, il va avoir cet éclair de génie. Tu es le Fils de Dieu. Le paragraphe suivant, quand Jésus annonce qu'il va devoir mourir, le premier à dire c'est pas possible, c'est Pierre. Donc être disciple demande vraiment ce temps. J'ai voulu, dans un premier temps, un petit peu balayer les Écritures. Je voudrais maintenant, dans un deuxième temps, m'attacher un petit peu à être disciple aujourd'hui. Sachant que, quand même, l'Écriture doit venir éclairer notre vie d'aujourd'hui. Être disciple aujourd'hui. Il y a quelques pages assez remarquables sur ce chapitre-là et sur bien d'autres dans l'exhortation apostolique du pape François. Être disciple aujourd'hui. Je pense que tout d'abord, il faut qu'on se mette dans la tête que être disciple aujourd'hui n'est pas plus difficile qu'hier. Les circonstances de l'Empire romain, en restant sur l'évangile de Marc, ne sont guère favorables à l'annonce de l'évangile. Ni à la lutte pour la justice, ni à la dignité humaine. Être disciple aujourd'hui n'est pas plus difficile qu'hier. Les circonstances en sont simplement différentes. Ne disons pas qu'aujourd'hui c'est plus difficile, osons dire, pardon, qu'aujourd'hui, c'est différent. Les conditions sociales, mes conditions personnelles, et il y a un petit « et » que je n'oublie pas, mes conditions sociales et personnelles m'invitent toujours à créer de nouveaux chemins. Être disciple, aujourd'hui, c'est différent. Pas plus difficile, pas plus facile. Être disciple, c'est être au cœur, pardon, d'une rencontre avec le Christ. C'est être au cœur de cette rencontre. Et dans cette rencontre, ça va être le plaisir de goûter la joie de l'amitié et du message du Christ. En étant là aujourd'hui, c'est une certaine façon de dire que après avoir connu Jésus, je ne suis pas le même. Il ne m'a pas laissé indifférent que pouvoir l'écouter ou ignorer sa parole n'est pas la même chose que pouvoir le contempler, l'adorer, se reposer en lui. Et que il y a au plus profond de nous cette conviction que Jésus marche avec nous, qu'il parle avec nous, qu'il respire avec nous, qu'il travaille avec nous. Comment vivons-nous et ressentons-nous la présence de Jésus en chacun des instants de notre vie? Comment osons-nous nous tourner vers le Christ et osons-nous lui demander qu'il vienne nous séduire? Osons-nous l'interpeller, viens me séduire. Alors notre mot sensibilité peut être concerné, car nous sommes les disciples d'un homme, de quelqu'un qui a une sexualité. Il est sexué, Jésus. Alors pour moi, être disciple de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que vous pourriez le faire. Je t'ai dit, tu vas leur donner une feuille de papier au début et tu vas leur demander de te dessiner Jésus. Comment chacun d'entre vous, vous le voyez ? Grand, petit, mince. Mais essayez peut-être de faire ce dessin. Essayez de le dessiner. Et je pense que votre dessin, il n'est pas si anodin que ça. Faites le dessin de Jésus. Ce sera peut-être un exercice à faire pour vous plus tard, mais faites ce dessin. Est-ce que votre dessin va être proche de celui que vous aimez ? C'est pas sûr. Mais faites le dessin. Et puis, au travers de ce dessin, on va pouvoir se poser les questions, mais Jésus, qui est-il ? un ami? Qui est-il? Un maître? Qui est-il? Un amant? Je me sens bien dans ses bras. Qui est-il? Un époux? N'oubliez pas, c'est pas anodin quand j'ose époux. Les religieuses qui font leurs vœux le font en robe de mariée. Encore dans certains endroits. Oui. Mais c'est à chacun d'entre nous de répondre à cette question en fonction de ma sensibilité. Je suis disciple du Christ, mais je suis disciple de qui? D'un ami, d'un maître, d'un amant, d'un époux, et peut-être que vous pourriez largement compléter cette liste. Et nous y sommes directement touchés. Nous y sommes aussi directement touchés quand on dit que Jésus est pour nous un frère. À vous, là aussi, peut-être, de préciser de qui chacun d'entre nous est-il le disciple. Être disciple, c'est aussi découvrir que le message du Christ répond aux nécessités les plus profondes de ma personne. C'est descendre au plus profond de moi-même pour découvrir cet être que je suis appelé à devenir. Il y a dans les paragraphes 268 et suivants de l'exhortation apostolique, des choses qui peuvent nous éclairer. Le goût spirituel d'être proche de la vie des gens, jusqu'à découvrir que c'est une joie, une source de joie supérieure. Être disciple. C'est descendre au plus profond de mon être pour trouver cette paix et cette joie. Être disciple, c'est suivre cette double exigence, le voir et le suivre. Le voir agissant dans nos vies, et le suivre, en sachant que le suivre, c'est savoir laisser, mettre de côté certaines choses qu'il nous demande d'abandonner. Et être disciple, c'est reconnaître que la vie sans lui, ben ce n'est pas pareil que la vie avec lui. Être disciple du Christ m'oblige à une opération vérité, car c'est toute ma personne qui sera sauvée par le Christ, et je dis bien toute ma personne. Dans sa globalité. Et là aussi, mon homosexualité est concernée. Car dans toute ma personne, il y a certes moi, mais il y a aussi mon comportement avec les autres, ceux qui sont du même sexe que moi, et les autres. Être disciple, c'est donc reconnaître que avec lui, c'est pas pareil que sans lui. C'est reconnaître que nous ne pouvons pas nous enfermer sur nous-mêmes, mais que, comme le dit le pape François au numéro 272, l'amour pour les gens est une force spirituelle qui permet la rencontre totale avec Dieu, à tel point que celui qui n'aime pas son frère marche dans les ténèbres. Et chaque fois que nous rencontrons un être humain dans l'amour, nous nous mettons dans une condition qui nous permet de découvrir quelque chose de nouveau de Dieu. Chaque fois que nos yeux s'ouvrent pour reconnaître le prochain, notre foi s'illumine davantage pour reconnaître Dieu. Être disciple, c'est aller à la rencontre du Christ. Être disciple, c'est le suivre. Mais être disciple, c'est aussi reconnaître que l'on fait partie d'un peuple. Le Christ nous conduit vers son Père. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous faisons partie de cette multitude de gens d'hier et d'aujourd'hui qui ont accepté d'être disciples. Mais être disciple, c'est peut-être trouver un chemin de paix. Être disciple du Christ, et remarquez, disciple du Christ, pas disciple de Jésus. Disciple de Jésus, ça serait rejoindre Jésus dans cette dimension que j'évoquais au début de l'évangile de Marc, de guérisseur, de bienfaiteur. Les disciples du Christ, c'est disciple de celui qui est passé par la mort et la résurrection. Et vous avez, dans ce passage de l'Évangile, et je reste toujours chez Marc, des disciples du Christ. Vous avez le bon larron, à qui Jésus dira: tu auras ta place avec moi dès aujourd'hui. Vous avez ce soldat romain qui osera dire: vraiment, cet homme est fils de Dieu. Et le disciple est peut-être celui qui va rechercher par des chemins qui seront tortueux, parfois souffrant, qui va chercher un chemin de paix. Et l'Évangile va être exigeant. Être disciple, c'est oser prier cet ami en évitant de conserver la rancœur pour nos ennemis, sachant que parfois, le pire des ennemis, c'est nous-mêmes. Nous sommes parfois notre propre ennemi. Et nous sommes nos propres ennemis quand nous évitons de rechercher la vérité. Être disciple du Christ, c'est chercher cette vérité au plus profond de nous-mêmes et d'essayer d'en vivre. Disciple du Christ, je vais maintenant reprendre un ou l'autre point et ouvrir sur quelques questions que vous pourrez aborder en groupe de partage. Ces questions ne sont pas écrites, donc il faudra quand même qu'il y en ait quelques-uns parmi vous qui les notent pour pouvoir débattre. Donc le disciple a deux caractéristiques. Il est quelqu'un qui suit un maître. Il est quelqu'un qui l'écoute. Alors, moi, suis-je disciple? Parce qu'on a le droit de refuser les signes que l'on voit. On a le droit de refuser les paroles que Jésus nous donne. Suis-je disciple du Christ? Suis-je un simple curieux? On ne rencontre pas tous les jours quelqu'un qui guérit des malades, qui multiplie les pains, qui marche sur l'eau. Suis-je spectateur? Ou bien suis-je de ces disciples qui veulent marcher à sa suite? Et marcher à sa suite, qu'est-ce que cela m'impose comme condition? Être disciple du Christ et homosexuel, être disciple du Christ et ce que nous vivons. Tout à l'heure, Michel a dit que c'était une affirmation, une réalité. Comment se conjugue-t-elle et comment sommes-nous des disciples du Christ ?